Oui, bonjour, c'est Siane et Sébastien de Dordogne. Alors, ben, Siane, ce matin, à l'école, là, il a appris quelque chose d'important, hein. C'est que le Père Noël, il existait vraiment. C'est vrai, Siane, on t'a dit ça?
On m'a dit qu'il existait vraiment.
Eh oui, il existait vraiment. Mais en fait, ils se sont trompés, c'est pas lui le vrai Père Noël. C'est qui? Celui qui fait des cadeaux à tout le monde, surtout à ceux qui ont plein d'argent.
Nicolas Sarkozy.
Ouais, c'est Nicolas Sarkozy, le Père Noël, on t'a reconnu sous ta barbe blanche. Ouais, nous on est malins, on sait qui c'est le Père Noël. Eh Père Noël, si tu veux venir, nous on fera pas de feu dans la cheminée pour que tu puisses descendre, d'accord Nico? Ah oui, tu nous amèneras des cadeaux? Qu'est-ce qu'il pourrait nous amener comme cadeau, Nicolas Sarkozy?
Un vrai tractopelle pour creuser des trous.
Ouais, un tractopelle pour creuser des trous. Merci, Nico. Allez, salut à tous, bonne journée. C'est Siane et Sébastien.
Oui, bonjour, Mermel. Bon, je viens d'entendre l'inénarrable Kouchner disant qu'il regrettait d'avoir créé un ministère des droits de l'homme qui était en opposition avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, M. Kouchner vient d'avouer que le ministère des Affaires étrangères mène une politique qui est contraire aux droits de l'homme. Bravo, M. Kouchner. Enfin, un moment de lucidité. Allez, bonne journée, au revoir.
Bonjour Daniel, ben voilà, ce matin j'ai écouté France Inter et c'est Emmanuel Todd qui a trouvé la bonne sentence. Emmanuel Todd ce matin il a dit, quand Kouchner parle, je ris avant d'écouter ce qu'il dit. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et puis je propose une deuxième chose aussi, de l'obliger à divorcer de la reine Christine et puis de se paxer avec Oncle Ben. Allez, bonne journée à vous. Salut, c'était Jean-Claude de Seine-et-Marne.
Oui, allô, donc c'est les représentants du lycée Joseph Flatt. C'est pour dire qu'on est toujours mobilisés contre la loi Darcos malgré l'espace médiatique qui est overbouché. On est toujours là, c'est pour faire passer le message à tous les lycéens. Mobilisez-vous, on ira jusqu'au bout et jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Salut!
Oui, bonjour Daniel, merci de nous donner la parole à travers votre répondeur. Au nom de toutes les mamans ou papas qui élèvent seuls leurs enfants, je voudrais remercier Monsieur Philippe Marini et tous les sénateurs qui viennent de voter une belle loi. La suppression de la demi-part supplémentaire accordée aux parents isolés ayant élevé seuls leurs enfants. J'ai deux enfants, dont une fille de 22 ans qui poursuit des études et que j'aide financièrement. Je n'ai plus droit à l'allocation familiale puisqu'elle vit seule dans un appartement. Je n'ai plus droit à aucune bourse ni aucune aide. Et bien maintenant, grâce à Monsieur Marini, je vais payer encore plus d'impôts puisque cette demi-part va m'être supprimée. Juste une petite précision, pour pouvoir avoir une vie convenable, manger correctement et avoir un petit peu de loisirs, j'ai dû retourner vivre au-dessus de chez mes parents qui m'aident, à 40 ans. Et encore, j'ai de la chance. Monsieur Marini et vous tous, nos hommes politiques, savez-vous qu'il y a des mamans qui vivent seules dans leur voiture avec leurs enfants?
Oui, Daniel, bonjour. Je t'appelle suite à l'émission d'aujourd'hui et j'ai trouvé une idée absolument géniale, je pense, pour tous ceux qui ont des problèmes de logement. Donc moi, je leur propose qu'ils se déguisent en voiture neuve, en Laguna, en Picasso, en 4x4 Nissan, peu importe. Et avec cette tenue, ils se présentent chez n'importe quel concessionnaire. Et donc ils seront chauffés, éclairés, peut-être même admirés. Voilà, une petite idée comme ça, géniale. Plus sérieusement, je pense qu'il serait peut-être intéressant, si un de ces jours, de faire une émission sur les inversions de valeur de nos sociétés, où j'ai la conviction que bon nombre de biens de consommation ont droit à plus d'égards que les vies humaines. Voilà, et ben c'était Clément de Dijon. Et bravo pour tes émissions. À bientôt. Salut.
Et bravo pour vos messages et merci à tous, chers AMG. Merci à ceux que j'ai rencontrés hier à Massy, au cinéma Massy. On a eu un débat sympa et chaleureux après la projection de Chomsky et compagnie. La prochaine fois, le prochain débat, je crois que ce sera jeudi soir à l'Espace Saint-Michel après la projection à Paris. L'Espace Saint-Michel après la projection. Du film, j'y serai peut-être, en tout cas l'équipe du film y sera. Alors aujourd'hui, tapis dans l'ombre. Ils étaient tapis dans l'ombre. C'étaient les anarcho-terroristes de Tarnac, tapis dans l'ombre. Vous avez tous suivi ce formidable emballement médiatique et maintenant ce contre-emballement médiatique, parce que ceux qui se sont emballés à fond dans cette histoire, eh bien, vont à fond dans le contraire de cette prodigieuse opération d'intoxication de l'opinion, cette nouvelle opération. Maintenant, c'est presque hebdomadaire, hein, ces emballements médiatiques et ces contre-emballements médiatiques. Mais celui-là était particulièrement formidable. Formidable, surtout les habitants qui ont refusé de se faire rouler dans la farine. Voilà pourquoi on leur a rendu visite. Pascariello leur a rendu visite. Et on va voir que les ploucs ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ont appris des choses. Ils ont lu des livres, ils ont lu des journaux, ils ont écouté certaines radios, ça leur arrive. Et ils se sont pas laissés rouler dans la farine gouvernementale, comme dans la farine médiatique. Et c'est pourquoi nous allons passer cette heure ensemble, tapis dans l'ombre. Auparavant, encore un message parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Chaque jour en France, il y a des millions de tonnes de nourriture encore consommables sans danger pour la santé qui sont manutentionnées du rayon du magasin où elles sont exposées direct vers les poubelles à l'arrière des grandes surfaces. Il est scandaleux à en passer par toutes les couleurs, de voir comment la nourriture est un bien si mal réparti, non seulement en France dans les différentes couches de la société, mais dans le monde entier où il y a des foyers de crise alimentaire ignobles de cruauté. Il n'y a pas rien à faire. Il y a à changer de société de façon urgente et radicale, parce que les pénuries d'emplois, de logements, de formation, de nourriture, de soins médicaux, tout cela est voulu et organisé par un tas de gangsters que nous avons élus parce qu'ils nous ont promis d'être sages et responsables. Et maintenant que nous savons que c'est archi faux, il faut qu'ils dégagent, que l'année prochaine, il n'y ait plus jamais de Resto du Cœur et que Mermet puisse nous faire une belle émission joyeuse sur les restos du peuple où des personnes de toutes conditions et de toutes nationalités peuvent venir manger ensemble dans une atmosphère fraternelle. Oui, vive la France! Vive la France! Oh les cœurs! Vive la France! Merci, au revoir, bisous!
novembre 2008, 20h.
Dans l'actualité ce soir, la police procède à un coup de filet dans les milieux de l'ultra-gauche. 10 personnes soupçonnées des sabotages à la SNCF sont en garde à vue ce soir.
Ça fait un drôle d'effet quand même. Hein. On est vraiment surpris. Quand même. C'est surtout de tout voir tous ces gendarmes qui étaient là, tous ces gens cagoulés qui étaient là, qu'on ne sait même pas, qu'on ne connaît pas.
Pourquoi il y avait plein de...
Quand on venait arrêter 9 personnes ou 5 personnes à Tarnac pour 150 policiers, ça fait un peu gros quand même.
Arrestation à Paris, Rouen, dans la Meuse et surtout à Tarnac en Corrèze, dans une communauté qualifiée d'ultra-gauche ou d'anarcho-autonome par la police.
On avait presque envie de rire au départ, tellement ça nous semblait grotesque. Bon, après, on a vite vu qu'il fallait pas en rire, puisqu'ils avaient été effectivement arrêtés dans des conditions très dures. Mais sur le coup, on a trouvé ça complètement irréel.
Vous avez des petits groupes qui envisagent la lutte individuelle.
Christophe Bourseiller.
Qui rejettent l'élection.
11 novembre 2008.
Qui prônent ce qu'ils appellent eux-mêmes l'action directe, ce qui, en jargon anarchiste, signifie l'acte terroriste.
Puis là, on apprend qu'il y a une action terroriste à Tarnac. À Tarnac.
Tarnac en Corrèze, au sein d'une même communauté libertaire.
Un lieu d'endoctrinement.
Vivait dans une petite épicerie tapis dans l'ombre. Parmi eux, le chef, un homme de 34 ans...
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la basse. J'y suis avec Pascal, Pascariello. Une petite épicerie tapis dans l'ombre.
Alors on va tenter de rentrer dans l'épicerie maintenant, qui a été obtenue par les 9 inculpés, mais qui est toujours ouverte, puisque j'ai l'impression qu'il y a une solidarité qui fait que ça reste ouvert.
Ah,
Bonjour.
Je ne parle pas d'enregistrer. C'est les enregistrés, les autres terroristes.
Expliquez-moi, vous travaillez pour l'épicerie, c'est ça? C'est l'épicerie de Tarnac? Qui était tenue par les 9 personnes qui...
Je ne veux rien dire.
Vous voulez rien dire? D'accord. J'ai l'impression que vous en avez marre des médias à Tarnac, non?
Un petit peu.
Un petit peu? Oui, ça vous pouvez pas me l'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé avec les médias, justement? Enfin, parce que moi, c'est ça qui...
Non, mais j'ai rien à dire.
Vous avez rien à dire? D'accord.
Alors, ça, d'habitude, ça s'appelle un silence et ça tombe au montage. Écoutez. Voilà. Ça... On coupe ça. D'habitude, on coupe ça. Eh bien non, pas là, parce que ce silence, c'est la réponse. C'est la réponse des habitants de Tarnac à cet emballement médiatique énorme. Parce que, je ne sais pas si vous avez bien noté, que lors de la prise d'assaut de ce petit village, situé donc sur le plateau de Mille Vaches, par les brigades antiterroristes, avec hélicoptères, troupes d'élite et caméras de France Télévisions, il y avait les caméras de France Télévisions aujourd'hui, les opérations policières sont renforcées par les opérations médiatiques. Ça va ensemble, les caméras sont là, les micros sont là, les journalistes sont là. Pas étonnant, lorsqu'on vient un petit mois après, de rencontrer ce silence. Mais on va voir quel est le sens de ce silence. Quel est le sens de ce silence? Qu'est-ce que les habitants de Tarnac et de la région ont compris? Eh bien, ils ont compris ce qu'ils avaient compris avant, déjà depuis un certain temps, c'est qu'on ne peut pas les avoir comme ça. Ça ne marche plus. Ces opérations qui consistent à fabriquer, on l'a bien compris, un nouvel ennemi de l'intérieur qui semble nécessaire à la situation sociale, économique du pays, il est visiblement important de fabriquer ce nouvel ennemi intérieur, eh bien, les Français profonds, les plous carriérés, les veaux, ne marchent pas, n'ont pas marché cette fois-là, et espérons qu'ils ne marcheront pas par la suite. Les veaux ont changé, les Français profonds ont changé, et on va le voir. Ils ont résisté, c'est une terre de résistance que cette Creuse, que ces alentours de Limoges, que ce plateau de Mille Vaches, on n'est pas loin dans ces coins-là, a évoqué la figure de Guingouin, Georges Guingouin, et si on boit encore quelques coups, on arrive très vite au maçon de la Creuse. Résistance donc, mais c'est pas... même si nos amis du coin seront peut-être un peu froissés, ils n'ont pas le monopole de ce sens de la résistance. Les Français profonds ne sont pas aussi imbéciles que les médias et le pouvoir actuel les considèrent. Dans le quotidien Le Monde, il y a un papier de Christian Salmon qui rappelle ceci, quelques lignes de Rochefort, l'intransigeant, qui disait « Vous habitez Saint-Denis, donc vous êtes anarchiste ». C'était dans le numéro de l'intransigeant du 16 mars 1892. Et ça continue. « Si vous n'étiez pas anarchiste, vous n'habiteriez pas Saint-Denis. Or, une bombe a fait explosion à la porte de l'hôtel Intel de Sagan. Et comme les bombes ne peuvent être lancées que par des anarchistes, je vous envoie au dépôt parce que vous êtes certainement anarchiste puisque vous habitez Saint-Denis et qu'étant anarchiste, il est évident que c'est vous qui avez lancé la bombe. » Alors ça tourne en rond comme ça, mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Et c'est avec ses habitants, les habitants de Tarnac, qui malgré tout, parce que c'est quand même là-bas si j'y suis, ont accepté de nous parler et de nous faire part de leur leurs analyses et de leurs impressions et de leur vécu. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, tapis dans l'eau.
Qui en veut à la seule chauffeur qui déclare la guerre au quartier? Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule. On sait tout sur ta vie et celle de ta cellule. Tu t'intéresses au train, tu flânes près des chemins de fer. Si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins. Et d'après notre enquête, t'en as même lu certains. UHT, ultime hyper total gauche. À gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche, de toutes les gauches. Fini les projections et les choucroutes parties. L'État dans son action sera direct. Aussi, détournement de brouette, là tu risques 20 ans, à moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tuteurs à tomates, c'est pour les sabotages. UHT.
Tarnac, c'est combien de, c'est 350 habitants à peu près.
Ouais, c'est ça, ouais, 350 habitants. Vous voyez, ici, il y a quand même pas mal de maisons fermées, quoi. Bah sur le plateau de Millevaches, de toute façon, il y a à peu près, dans les communes, il y a à peu près 40% de résidences secondaires. Quoi. Les journalistes n'ont pas fait briller Tarnac. Hein. Donc, les gens, ils sont sentis un peu agressés. Et puis bon, il y a des méthodes de journalistes qui veulent extirper à tout prix des déclarations fracassantes et de ça aux gens. Et bon, bah voilà quoi. Bah donc, je m'appelle Thierry Le Tellier. Alors moi, j'habite pas à Tarnac. Hein. Je suis paysan à 9 km d'ici, sur la commune de La Villedieu.
Et vous êtes maire de la commune.
Oui, je suis maire de La Villedieu, oui.
Et vous êtes aussi un des fondateurs du comité de soutien des inculpés de Tarnac.
Pour essayer justement de démanteler un peu cette cabale journalistique et politique. Donc on s'est décidé donc avec Jean Plazanet, l'ancien maire d'ici, hein, puis Michel. Donc,
le maire de Tarnac fait pas partie du
comité. Non, on l'a jamais vu. Moi, je l'ai jamais vu. Je le connais même pas. Je l'ai aperçu comme ça, mais.
Alors. Monsieur le maire, association de malfaiteurs, comité de soutien, association de malfaiteurs. Attention, on prend des risques, mais sauf que cette association, ce comité de soutien marche bien et a rencontré beaucoup d'écho à travers le pays et à travers l'opinion. Ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ça a marché souvent dans le passé. Ça marchera sans doute peut-être à nouveau, bientôt. N'oublions pas que l'affaire n'est pas close, que l'instruction n'est pas close. Mais ça n'a pas marché, au moins dans cette région-là et dans ce petit coin de France. Thierry Le Tellier, si vous vous souvenez, on l'avait rencontré dans le passé, suite à des émissions, au cours d'émissions de reportages que nous avons fait dans ce petit coin. Là, aujourd'hui, ça a changé et voilà les commentaires qu'il fait.
Donc vous, avec l'ancien maire de Tarnac, voilà. Et Michel, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que si on refait un petit peu la chronologie rapidement, le 11, donc il y a la grande arrestation.
En fait, le 11, il y a la grande arrestation.
Il y a eu 9 ouais. inculpés.
Ouais.
Depuis, on a 2 qui sont encore en détention provisoire.
Ouais.
Et donc 6 ont été arrêtés à Tarnac. Là où on se trouve aujourd'hui.
Le 12 ou le 13, je ne me souviens plus trop, les jeunes provoquent une réunion avec les habitants. On monte un comité de soutien. Le comité de soutien, il prend pas position sur la culpabilité des gens. Est-ce qu'ils ont fait des actes de malveillance ou pas? Le comité de soutien, il prend juste position sur le fait de dire que ce sont des actes de malveillance qui ont été effectués. On ne sait pas si c'est eux. Donc déjà, il y a la présomption d'innocence. Hein, c'est dans la loi française. Et ensuite, ça n'a rien à voir avec du terrorisme, quoi. n'y a jamais eu de risque de déraillement, il n'y a jamais eu risque d'atteindre à la vie des gens ou simplement à leur intégrité. Dans les premiers jours, il y a beaucoup de gens qui ont dit et qui ont écrit que c'était des criminels, qu'il pouvait y avoir des centaines de morts, et ça. C'est absolument faux. Ça a fait aussi que le comité de soutien, il a rapidement trouvé de l'écho, parce que il y a des gens de la SNCF qui se sont exprimés clairement là-dessus, hein, notamment les gens qui réparent les caténaires et qui travaillent sur les trains. Et eux, ils ont déclaré à la presse, avec un petit délai d'attente, hein, c'était un système plutôt ingénieux et qui causait des dégâts matériels, mais en aucun cas qui mettait en risque la vie des gens. Quoi, voilà.
Cela faisait déjà plusieurs mois que cette mouvance d'ultra-gauche, comme on appelle aussi les anarchistes...
Un 11 novembre comme celui-là, Monsieur le maire et son adjoint ne sont pas prêts de l'oublier. Ils ont découvert que leur village, Tarnac, 355 habitants, abritait peut-être une bande de terroristes.
Le petit village de Tarnac, encore.
6h du matin, village bouclé. Les policiers antiterroristes viennent interpeller les membres d'un groupe de l'ultra-gauche. Des militants anticapitalistes radicaux, soupçonnés d'avoir saboté des lignes SNCF. 7 personnes sont arrêtées à Tarnac. Ici, c'est l'incompréhension.
C'est plus calme ce soir, hein ?
Oui. Donc ils sont intervenus là, dans cet appartement.
Monsieur le maire, avait-il sans le savoir de dangereux terroristes comme voisins ?
Ah oui, il y a des fouillés.
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Bonjour, excusez-moi. Je travaille pour France Inter, je venais voir monsieur le maire, monsieur le duc.
Il est parti. Bon, j'y vais, moi. Comme ça, ça sera plus sûr. Moi, c'est pour...
Vous partez ?
Oui, mais j'ai quelque chose à faire.
D'accord.
Monsieur le maire, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Si c'est pour...
Vous êtes à l'accueil de la mairie, enfin, vous vous occupez de la mairie ?
Oui. Et toutes les deux.
Toutes les deux, la jeune fille qui est partie aussi.
Moi, je travaille le matin et l'après-midi.
J'ai l'impression qu'à Tarnac, on en a vraiment assez des médias, ou je me trompe ?
Oui. Non.
Vous ne voulez pas m'expliquer ce qui s'est passé pour que vous ne vouliez plus... pour que je sois reçue comme ça ?
Je m'en vais parce que j'ai rendez-vous.
Vous savez à quel numéro je peux appeler éventuellement pour essayer de demander un entretien avec monsieur le maire ?
Non.
Ah, vous me refusez même la possibilité de prendre les coordonnées de la mairie ?
Non, parce qu'il ne veut pas répondre. Bon, je vais dire.
Donc là, vous partez ?
Oui. Ah, mais vous me laissez tranquille, hein ? J'ai rien à dire.
Au revoir.
Au revoir.
Silence radio. Silence radio, les habitants de Tarnac refusent de parler, au moins le maire et le personnel de la mairie de ce charmant village niché dans son écrin de verdure de 355 habitants où donc résidait dans tapis dans l'ombre cette mouvance d'ultra-gauche et d'anticapitalistes radicaux. On voit bien le but, il est que on inverse les choses, c'est-à-dire que toute critique du capitalisme va bientôt faire de vous un ultra, un terroriste, tellement on sait manipuler, on espère savoir toujours aussi bien manipuler l'amalgame confusionnel. Alors, comment les choses se sont déroulées ? On retrouve Thierry Letellier, paysan sur le plateau de 1000 vaches, et maire de la ville Dieu, avec Michel Gilabert, qui est lui aussi artisan, sur le plateau de 1000 vaches.
Ce qui se passe, c'est que, pour rappeler les faits, grosso modo, on a 150 flics qui débarquent un matin, qui démarrent une perquisition massive en bloquant un village à 6h du matin, et ils le font sous l'œil des caméras.
Des tracts, des livres, des banderoles, mais aussi un certain nombre de documentations liées à la SNCF et au train. Il y a aussi des ordinateurs que les enquêteurs vont désormais éplucher afin de déterminer si les saboteurs ont agi seuls ou avec des complices.
Donc les médias sont déjà présents à 8.
Les médias étaient déjà là quand...
Les médias classiques, c'est-à-dire RTL, RMC, TF1, Sud Radio, enfin voilà, les relais du gouvernement dans les médias. Hein, c'est des gens qui sont prévenus...
À 8h30, il y a déjà des dépêches AFP qui tombent sur Internet. Et donc, l'information, elle est immédiatement relayée. À 10h30, Michèle Alliot-Marie, elle donne une conférence de presse. et elle lâche tout de suite un certain nombre de mots qui sont essentiels.
Les investigations sur ce groupe ont été conduites par la sous-direction antiterroriste et elles ont permis d'établir des liens entre les lieux et les heures des sabotages et l'activité de certains membres de ce groupe.
Il s'agissait donc bien d'actes de terrorisme.
Et à ce moment-là, on n'a pas encore toute la construction, mais on a le point de départ. Donc, ultra-gauche, terrorisme, nébuleuse, camp d'endoctrinement, violence, terreur, tous ces termes-là, ils sont déjà d'emblée lâchés. Ensuite, parce qu'il y a une opération qui est quand même menée par le parquet antiterroriste. Donc il faut légitimer que le parquet antiterroriste intervienne. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir montrer que d'une certaine façon, on a affaire à un camp retranché d'Al-Qaïda ou des jeunes de l'ultra-gauche.
Appartenant à une mouvance anarcho-autonome d'ultra-gauche, ces hommes et ces femmes ont pour revendication renverser l'État.
Non mais c'est important, parce que le parquet antiterroriste, il ne peut pas intervenir dans n'importe quelle condition. Donc comme ils n'avaient pas les conditions, ils ont dû les construire.
Et
donc
le 11 novembre, on sait que c'est les premières dépêches et les premiers articles de journaux qui vont après... modeler l'ensemble de la presse puisque tout le monde se copie et tout le monde et qu'il faut aller très vite sans vérifier les infos et tout ça. Et c'est pour ça qu'après, même la presse écrite le lendemain, même Le Monde ou Libération tombe dans le piège dès le premier jour parce qu'elle vérifie pas, elle reprend ces termes-là et donc le mouvement s'amplifie effectivement. Et puis après, c'est très dur de casser cette image.
Tarnac en Corrèze, considéré comme un lieu d'endoctrinement.
Le commando avait fait de ce village de Corrèze son QG. C'est ici que les principaux membres ont été arrêtés ce matin. Ils vivaient dans une petite épicerie tapie dans l'ombre.
On dit un camp d'endoctrinement, etc. Comme le Figaro dit, les gens vivent tapis dans l'ombre, etc. Après, les enquêteurs, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils viennent d'arrêter un épicier. Les gens ne sont connus dans le village, donc il n'y a aucune clandestinité, aucun plan. Enfin, tous ces éléments-là, c'est vraiment immédiatement balayé. Donc on sait qu'on ne tient pas tout avec seulement cet élément-là. Donc il faut un élément supplémentaire. Et c'est là qu'intervient le soir même, mais ensuite, après, c'est les deux jours qui vont suivre, la construction et la stigmatisation de Julien Coupa comme chef de l'entreprise terroriste. Qui est chef d'un commando dans lequel il y a des sous-lieutenants, enfin je veux dire c'est des termes militaires très très bien choisis, et donc il fallait montrer d'abord déjà que c'était un groupe fermé, qui avait un chef, qui était un chef extrêmement intelligent. C'est pour ça que les médias ont relayé le fait que Julien avait fait l'essai, qu'il avait fait des hautes études, etc.
Une philosophie de vie inspirée par un homme lui aussi arrêté, Julien, le leader intellectuel du groupe. 34 ans, fils de médecin, mention très bien au bac, diplômé d'une grande école de commerce.
Et même quand des amis prenaient la parole pour parler de Julien en disant effectivement c'était un type brillant et tout, genre ça allait toujours dans le sens vraiment la capacité d'un type à manipuler tout ce qui l'entoure. Et cette construction-là, elle est vraiment montée de toutes pièces par les médias pour créer l'image, en l'occurrence, de l'ennemi intérieur.
Julien participe aussi à la rédaction de ce livre publié en 2007, L'insurrection qui vient. Il est signé d'un énigmatique comité invisible. Les policiers sont persuadés que cet ouvrage a influencé le groupe. Les exilés de Tarnac ne se contentent pas d'écrire des livres ou de vivre en marge de la société. Ils la contestent aussi.
L'affaire a fait la une pendant plusieurs jours. 9 personnes, présumées innocentes, ont été exposées dans les médias, parfois avec leurs photos, leurs noms et des détails de leur vie. D'emblée,
alors ça, c'est les commentaires d'une vidéo produite, construite par Télé Mille Vaches. Vous vous souvenez de Télé Mille Vaches ? On les avait rencontrés il y a quelques années lors d'un reportage sur Ambiance Bois, une petite fabrique très, très particulière et très sympathique dans ce coin-là. Alors finalement, notre Pascal, le Pascariello, elle a réussi à rentrer dans l'épicerie de Tarnac, tapis dans l'ombre, et a demandé à Télémille Vache de projeter cette vidéo qui fait une dizaine de minutes pour les habitants, pour ceux qui veulent bien regarder et faire des commentaires. Et tout cela se passe en présence de deux confrères éminents, bien sûr, qui sont Marc Chomel, qui est photographe pour Libération, et Annick Fourreau, correspondante du journal Libération, qui a été un des plus ardents alarmistes contre cette tendance anarcho-autonome, cette mouvance d'ultra-gauche anticapitaliste radicale qui depuis a fait un tête-à-queue. C'est-à-dire qu'on est passé de l'emballement contre à l'emballement pour ou contraire. Enfin, voilà, débrouillez-vous avec ça. En tous les cas, nous regardons cette vidéo en présence de cette petite assemblée, donc deux journalistes de Libération et la population et notre Pascal à nous.
Sur le mardi 11 novembre, 150 policiers et gendarmes ont interpellé devant les caméras plusieurs habitants de Tarnac. L'affaire a fait la une pendant plusieurs jours. 9 personnes présumées innocentes ont été exposées dans les médias. Quelques habitants d'un village et tout le village ont été propulsés personnages et théâtre d'un grand récit médiatique sur lequel personne n'a eu de prise. Nous vous proposons de revenir sur les méthodes médiatiques.
10 personnes en garde à vue dans l'affaire des sabotages de caténaires. Le gouvernement évoque une filière ultra-gauche, mouvance anarcho-autonome.
Et tout de suite, une enquête qui est allée très vite après les actes de malveillance.
On pourrait penser que c'est allé vite, très vite.
L'enquête est donc allée très vite, hein, puisqu'il a suffi de moins de...
L'enquête a été menée très rapidement.
Il s'agissait donc bien d'actes de terrorisme, d'actions concertées et non pas de la malveillance.
Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est une affaire de terrorisme.
Car pour les policiers, il s'agit bien d'actes terroristes.
Moi, je peux expliquer à l'assistance. L'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup d'images de fête et beaucoup de mots dits sur cette semaine-là, sur cette affaire. C'est-à-dire qu'il s'est dit des choses à la télé, à la radio, dans les journaux, qui étaient complètement irréelles par rapport à ce qu'on vit là. Alors après, tout se dégonfle, mais les démentis ont moins de force que les premières images ou les premiers mots, quoi.
Personne n'a changé de registre. On dit déjà qu'ils sont capables de faire des dégâts nationaux. Tu te rends compte un peu?
Non, mais c'est pas possible.
Vous êtes journaliste, peut-être que vous pouvez vous exprimer, journaliste à Libération, et vous êtes photographe. Peut-être que vous pouvez expliquer aussi comment ça fonctionne, une rédaction. Comment on prend des décisions ? Vous voulez pas parler ?
Non, je veux pas parler.
Non, franchement.
Alors,
il n'y a pas une rédaction monolithe avec des gens qui suivent Allo-Mari, etc. Ça, c'est une caricature. Je veux dire, il y a une discussion à l'intérieur de la rédaction. Effectivement, il y a un titre qui était contesté. Le lendemain, il y a eu des discussions au conseil de rédaction. Comme tous les matins, comme dans toutes les rédactions, il y a des discussions avec un débriefing du journal de la veille en essayant d'expliquer pourquoi on a dit ça, pourquoi on l'a dit, etc. Et à partir de là, il y a une discussion comme dans toutes les rédactions.
Ouais, mais c'est une question du coup pour le journaliste de Libération. Pourquoi du coup, s'il y a tant de questions et de débats à l'intérieur du journal, on a quand même le titre, l'ultra-gauche déraille, sans aucune question sur le fait que ça soit une garde à vue de 96 heures pour terrorisme, et qu'on balance ça comme ça en titre parce qu'on fait un petit jeu de mots à la Libération. Donc pourquoi ?
Marc de Libération.
Moi je suis pigiste photographe, donc j'ai pas choisi le titre. Et j'étais pas ce soir-là.
Et du coup là on fait plus vraiment partie du journal, donc c'est comment ça se passe ? Vous faites partie de Libération ou pas ?
Je suis pigiste, photographe à Libération. Je ne suis pas directeur de la rédaction, je ne choisis pas les titres. Voilà.
J'imagine qu'il y a des luttes chez vous aussi, professionnelles, pour défendre le métier que vous avez envie de faire. Et que peut-être que les journalistes ont moins de pouvoir qu'avant dans les rédactions, dans les journaux et dans les médias. Donc moi je préférerais... Alors c'est dur parce que mis sous le boisseau et attaqué comme ça hyper virulement, on a envie de se défendre et d'être sur une position de justification. J'aimerais tellement entendre un journaliste dire « Mais ouais, je suis d'accord avec vous, mais nous aujourd'hui dans les rédactions, on n'a plus de pouvoir. On n'a plus de pouvoir, c'est pas nous qui décidons des unes. Qui est-ce qui décide des unes ? C'est quoi le pouvoir des actionnaires dans les médias aujourd'hui ? Mais c'est possible de dire ça, et nous on comprend en fait. Et du coup, nous on aura envie de soutenir peut-être des luttes de journalistes dans leurs médias. S'il y avait cette position peut-être sincère un peu, mais non.
Les gens, ils ont été interviewés en disant « c'est des braves gens, ils n'ont rien à voir avec tout ça, etc. » Et le commentaire du journaliste par-dessus, c'est « ils ne savaient même pas qu'ils vivaient une double vie ». C'est encore autre chose. Même si les journalistes sont venus prendre des informations au sein du village, c'était déjà pour démontrer à quel point les gens qui vivent dans les campagnes sont des imbéciles et qui peuvent se faire manipuler par des gens qui ont beaucoup de diplômes, etc. et tout ce qui s'ensuit.
Je suis pigiste pour Libération depuis 8 ans maintenant, je travaille en région. J'ai une manière de travailler qui est complètement autonome et tranquille. J'ai jamais subi une telle pression. En revanche, ce que je voulais dire, c'est qu'un journal, c'est comme une entreprise en fait, quelconque. Il y a effectivement beaucoup de gens qui interviennent. C'est pas un travail en chaîne, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait le papier, il y a quelqu'un qui le relit, il y a quelqu'un qui fait un titre, il y a quelqu'un qui décide de mettre une phrase en exergue ou pas. Voilà. On ne peut pas, moi, à Clermont-Ferrand, puisque c'est là où je suis basée, je ne peux pas tout maîtriser. Je donne des suggestions, j'y tiens, ce serait peut-être bien de mettre l'accent sur tel aspect dans le papier. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce travail en chaîne. Et c'est vrai que, du coup, il y a une marge d'erreur, bien sûr. Mais j'allais dire qu'on demande n'importe quelle entreprise qui travaille avec une extrême urgence.
Non, c'est pas une marge d'erreur.
Là, il y a une malhonnêteté intellectuelle. Quelqu'un a produit un boulot, a fait un article, a fait une enquête. Et il y a des mecs au-dessus, parce que les mecs au-dessus, ils sont beaucoup plus proches du bureau de la pub et du bureau des actionnaires qui décident, je vais lui caviarder, je vais faire ça. Voilà. À mon avis, ça, il ne faut pas l'accepter. Mais du coup, il faut lutter pour ne pas l'accepter. Il faut lutter ensemble. Et elle, c'est où la lutte des journalistes aujourd'hui, bordel?
Quand on sait la force, en fait, de 10 secondes d'image avec 30 secondes d'un journalisme qui va balancer à des millions de téléspectateurs, là, mais c'est dit, et après, on peut ramer, quoi. Vous pouvez ramer, vous pouvez faire des débats comme ceci avec 50 personnes, même 3000 personnes dans une pièce. Eh bien, il faudra des années pour ramer. Et dans la tête des gens, effectivement, à Tarnac, me semble-t-il. Moi, je suis à 400 km d'ici, j'entends bien. Les gens disent, ah bah oui, c'est sûr que là-bas, ils ont vu TF1, ils ont vu ce qui se passait ici. À travers pendant 15 jours où il y avait le feu un peu, il y avait des images dures apparemment à la télé, dans la tête des gens, c'est clair et net, il y a des terroristes ici, et puis il faudrait encore peut-être qu'Aliomari vienne en direct et puis en disant non, oui, on s'est trompé, quoi. Et encore, je sais même pas si on arriverait à enlever l'idée des gens que il n'y a pas de terrorisme à Tarnac, quoi.
Vous avez raison, parce que ici, ce qu'on entend, moi, je suis quand même d'ici depuis déjà un bout de temps. Eh bien, on a changé notre Tarnac, voilà, c'est tout. Voilà. On a changé. À cause que ça, à cause qu'il y a des terroristes ici, on a changé le Tarnac.
Vous voulez boire un verre ?
Je vais manger.
Ça fait, je vais pas boire quelque chose.
Non, mais ça va, après je vais être sous.
Bois quelque chose.
D'accord, je vais boire quelque chose, ça va.
Ouais, elle boit quelque chose quand même, hein, vous avez entendu. C'est le pot de vin, c'est la journaliste qui se fait acheter quand même. Hein. Alors voilà, un dialogue passionnant entre les habitants de Tarnac et ses dignes représentants de la profession qui sont invités à lutter. À quand la lutte des journalistes? Bordel, s'écrit un des habitants de Tarnac. Et je peux raconter très rapidement une toute petite anecdote. Je suis dans le TGV, je somnole et j'entends deux mamies à côté de moi qui disent « Oh ben moi je prends plus le TGV avec ce que font les terroristes, hein, j'ai peur d'être dans le TGV ». Ça c'est une chose. Et je vais, après la projection de Chomsky et compagnie, débattre avec le public et nous essayons d'expliquer tout ce qu'on vient d'entendre là sur la manipulation de l'opinion, comment les élites médiatiques sont les premières manipulées, le journaliste et le manipulateur manipulé, mais c'est le premier manipulé avant même les gens ordinaires, les gens de la base qui eux le sont beaucoup moins. Et à chaque fois, à chaque débat, il faut réexpliquer ça, et puis il faut réexpliquer évidemment comment fonctionne la fabrique du consentement. On a là, en très peu de temps, exactement ce que nous sommes en train de dire et de répéter, sauf que les habitants de Tarnac, eh bien, ils ont commencé à piger tout ça, à comprendre tout ça, à la différence de certains journalistes. Mais on voit que la lutte va bientôt commencer très durement, peut-être au bistrot du coin, au bistrot de Tarnac, non loin de l'épicerie, où notre Pascal Locke est en train de boire des coups, rencontre Frédéric.
Vous avez été long, hein.
Regarde, si elle est mignonne, la petite. Mais
qu'est-ce que vous voulez savoir?
Comment les habitants ont pu refuser de croire ce que les médias et le gouvernement voulaient leur faire croire?
On l'a déjà dit,
non,
ça.
Non.
Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne sais pas. En attendant, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas des vrais problèmes. On parle. En plus, Aliomari, elle a traité les gens d'ici de demeurer. Demeurer, pourquoi? Parce qu'on défend les jeunes de Tarnac, alors qu'ils n'ont rien fait. Enfin bon, ils n'ont rien prouvé. Je trouve ça lamentable de la part du gouvernement. C'est complètement désespéré, quoi, de voir des gens qui peuvent penser ça de nous. On est des Français. à part entière. Le Limousin fait partie de la France, que je sache. Et le plateau de Mille Vaches aussi. Moi, j'habite ici depuis toujours. Je suis né en Limousin.
Vous êtes né en Limousin ?
Eh oui.
Votre prénom ?
Fred.
Fred, vous faites quoi, vous, dans le Limousin ?
Moi, je suis charpentier et couvreur, et je fais de la musique trad. Avec un groupe qui s'appelle Chantelèbre. Enfin, je vais faire un peu de pub.
Vous pouvez, c'est important.
Yoshin et Limougé. Valendiur al país.
Ça veut dire quoi, Valendiur al
pays ? Nous voulons vivre au pays, ça veut dire. Donc, c'est bien pour ça que ça me fait mal. Quand j'entends que MAM nous traite de demeurer, ça me fait mal. Parce qu'ici, il n'y a pas que des cons. Ça a été une terre où il y a eu de la résistance, et heureusement qu'il y en a eu de la résistance, contre les nazis, entre autres. Guingouin, à l'époque, il était traité de terroriste.
Mes chers amis, pour la quatrième fois, la France célèbre, dans l'épreuve et la tristesse, un Noël de guerre. Les événements m'obligent à donner à mes voeux l'accent d'une suprême exhortation. Noël, fête de l'amour, et des Français revenus au plus mauvais jour se querellent.
Philippe
se
Pétain.
Bafouent l'autorité, exercent des représailles, se livrent au pillage et au sabotage, répandant ainsi par des attentats inqualifiables une véritable terreur.
Bon, alors le mot terroriste, vraiment, c'est un grand mot. Je veux dire, donc voilà. Mais franchement, nous traiter de demeurer, là, elle y va un peu fort.
Est-ce qu'ils pensaient peut-être que les habitants allaient croire tout ce qu'on allait leur montrer ?
Oui, exactement, oui. Ils avaient pensé que tout à coup, on se serait rué sur ces jeunes en disant « Ah ben oui, c'est de leur faute, ce sont vraiment des terroristes, enfin bref. » Alors que non, personne n'y a cru dans la région. Ici, on a été abasourdi, on s'est dit « Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ?» Pour moi, ils sont innocents, quoi, c'est clair. Il y a quand même une sincérité entre les gens d'ici, les autochtones, et puis ces jeunes, qui fait qu'on n'a vraiment pas pu y croire. Ou alors, bon, ils cachent bien leur jeu, quoi, mais je pense pas. Ils essayent de vivre même comme les gens de la région. Simplement, quoi, voilà ce que je veux dire.
Mais vous avez l'air, en tout cas, vraiment touché par l'image qu'on a renvoyée de,
oui,
de vous, enfin des habitants.
Oui, oui, c'est tout à fait. Ça m'a laissé un peu aigri quand même par rapport à leur façon de nous traiter. Quand on parle de ces problèmes-là qui n'en sont pas, on ne parle pas des véritables problèmes sociaux qui sont bien plus importants, bien plus graves. Et on n'est qu'au début de la crise. Il va y avoir de sacrées surprises à ce niveau-là, je pense. Des chômeurs en plus et puis des gens dans la mouise, quoi, etc. Et bon, on n'est pas dupes. Ici, dans Limousin, on a l'habitude. On sait ce que c'est que la misère. Puisque c'est déjà un pays de misère, comme ils disent, mais bon. Je veux dire, un pays qui est rude, qui est dur. Pays d'élevage seulement, c'est vrai que, bon, c'est pas un pays très riche, quoi. Voilà, c'est tout. Les médias sont dans la poche du gouvernement. Je le pense sincèrement. À part peut-être quelques-uns, mais ils sont rares. C'est toute une machine qui veut écraser un pauvre petit pays comme nous, quoi. On écrase les pauvres, c'est normal. Pour l'occasion, c'est le Limousin, donc c'est la région la plus pauvre de France. Bon, c'est de la merde, on les laisse de côté,
c'est vrai. C'est une violence quand même, ce mépris-là.
Ils sont violents, quoi. Ils sont violents envers nous. On s'occupe de Tarnac comme ça pour des événements de la sorte, mais si on avait besoin d'argent, là, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous, sauf des embrouilles de ce style.
Les habitants de Tarnac, sur le plateau de Mille Vaches, tels qu'ils ont vécu cette histoire et continuent de la vivre. On retrouve Thierry Letellier, paysan, maire de la Ville-Dieu, et Michel Gilabert, qui est lui aussi artisan sur le plateau de Mille Vaches.
Toute cette activité là au niveau du comité de soutien, je pense que c'est intéressant effectivement qu'il y ait un aspect juridique et de ça pour que les gens soient vraiment au courant de aujourd'hui ce que sont les lois de la République française, hein, les lois répressives et vraiment sécuritaires. Et effectivement, moi je crois qu'il va y avoir des effets secondaires plutôt positifs. Hein, moi je pense au moins ici au niveau du territoire, quoi. Et après, je pense que même au niveau de la presse, quand on voit l'évolution maintenant, hier dans Libération, il y avait le mea culpa de Onfray qui avait fait un article saignant dans Ciné Hebdo. Mais hier dans Libé, bah, il écrit un article en disant bah, voilà, je me suis trompé, quoi. On s'est emballé. On s'est tous emballés sur cette affaire.
Par exemple, Christophe Bourseiller, je ne sais pas si c'est Christophe, en tout cas Bourseiller. Ce gars-là, il intervient comme spécialiste de l'ultra-gauche les premiers jours, quoi. Genre, en expliquant ce que c'est que l'ultra-gauche, comment fait l'ultra-gauche, etc. Avec donc la police qui dit « Ah, ces gens-là, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. » Effectivement, l'ultra-gauche fait ça, et comme ça. Et donc, normalement, si on suit la logique actuelle, donc ils vont passer à des attentats et ils vont tuer certainement plein de monde dans les jours. Enfin, grosso modo, je caricature, mais c'était ça.
Vous avez des petits groupes qui envisagent la lutte individuelle, l'acte individuel, qui rejettent l'élection, qui sont beaucoup plus radicaux et plus dangereux sans doute pour certains d'entre eux, mais en tout cas qui prônent ce qu'ils appellent eux-mêmes l'action directe, ce qui en jargon anarchiste signifie l'acte terroriste.
Le type, une semaine après sur France Culture, il a interviewé, il dit « Ah non, la procédure terroriste, c'est démesuré. En plus, L'insurrection qui vient, c'est un très beau livre d'une profondeur, d'un désespoir extrêmement beau. »
C'est une affaire gonflée, c'est une affaire pour diverses raisons, mais c'est une affaire qui est vraiment, moi qui me paraît, sans commune mesure avec la réalité des faits, quoi.
Christophe Bourseiller, journaliste et écrivain, observateur des mouvements politiques.
Et puis ça permet également de parler de ce livre assez étonnant qui s'appelle « L'insurrection qui vient », qui a été signé par le Comité Invisible et qui est un texte très beau.
Et donc après, voilà, il a retourné complètement sa veste, quoi. Mais ce type-là, par exemple, il a fait un mal décisif parce qu'il a servi... il a servi de spécialiste de la matière, de la question du terrorisme ultra-gauche, et il a appuyé les thèses, et il a confirmé les thèses du gouvernement. Et à partir du moment où un type comme ça, qui je pense, enfin, à mes yeux pas, mais je pense qu'aux yeux de pas mal de gens, devait avoir une certaine crédibilité, que lui, il appuie de cette façon particulière les thèses de l'État, etc., je pense que c'est ça aussi qui a permis, par exemple, à des gens comme Libé De se déchaîner droit derrière, quoi.
Ouais, ouais. J'ai fait partie de la résistance comme ça, par hasard. Il y avait un groupe FTP, disons, le chef, il est venu me trouver. Il me dit, est-ce que tu veux nous donner un coup de main, nous donner les heures des trains qui passent, et puis ce qu'il y a sur les trains et tout ça. Je dis, oui, mais moi, attention, hein. J'ai quand même, je donne une partie de mon argent à mon père qui a 5 enfants, hein, donc je peux pas perdre mon boulot.
Politiquement, vous aviez des idées plus avancées que ça ou pas du tout?
J'ai toujours été neutre.
Pourquoi avoir fait ça alors?
C'est normal, je suis un révolté. Et c'est pour ça que j'ai soutenu un petit peu, parce que s'ils sont révoltés, ils ont peut-être raison, ils ont des motivations, et bien il faut les comprendre leurs motivations.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par ça?
C'est des motivations, ils veulent avoir une vie libre, ils veulent avoir une vie en anticapitaliste, surtout. Hein. Bon, bah, écoutez, ça existe, on est en démocratie. On n'a pas le droit de refuser les opinions des gens.
Ah, voilà, résistance, on parlait de résistance, on évoquait Georges Guingouin et les maquis du Limousin et de la Creuse, et ben voilà notre résistant, et voilà le point de vue d'un homme de cette France profonde.
Jeannette, donc la campagne de Charles,
on n'a pas du tout eu la présomption d'innocence, on attaque les gens en disant ça y est, ils sont coupables, c'est tout ce qui se passe. Enfin, on voit que le gouvernement est très contre ces jeunes, enfin, qu'ils considèrent sans preuve, à l'appui, comme des terroristes. Alors moi, je suis quand même très rigoureuse, je ne peux croire les choses que s'il y a des preuves.
Et on est venu chez vous, Jeannette, parce que Charles a constitué un dossier qui était chez vous, oui, et qui est fait d'articles depuis le début de l'affaire, ce qui est pas rien, parce qu'a priori...
Non, mais tu vois, c'est pour ça.
Charles, attendez, ouvrons votre dossier. Où il y a cette première feuille, où il y a écrit en haut, calendrier, comité de soutien Tarnac.
Il faut voir un dossier. J'ai découpé tous les articles du journaux que j'ai pu, et puis on se fait une opinion. Mais là, on voit bien que l'opinion, elle est médiatique, mais c'est affreux. Ça bouillonne tant que ça peut. C'est effrayant. Attends, tu vas voir.
Tout est tourné contre eux. Voilà. Il n'utilise jamais téléphone. Voilà, voilà ce que dit
le Monde.
L'article du Monde, à l'intérieur du document concernant ce groupe. Alors, ce que dit, ils ont adopté la méthode de la clandestinité, assure Madame Alliot-Marie. C'est le Monde qui l'écrit. Il n'utilise jamais téléphone portable et réside dans des endroits où il est très difficile à la police de mener des inquisitions sans se faire repérer. Bon, alors, pas de téléphone portable. Ici, le téléphone portable, il n'y a pas très longtemps qu'il marche. Il y a très, très peu de temps. Les gens n'ont pas l'habitude de les utiliser. Et d'autre part, ça marche souvent très mal. Ça ne passe pas, etc. Moi-même, je n'utilise pas le téléphone portable. C'est pas pour
vous
ça.
Vivez dans la clandestinité, vous, Jeannette ?
Bon, non, sûrement pas. Bon, alors maintenant, il est très difficile de les repérer. Ils ont un restaurant où tout le monde vient. Il y a beaucoup de gens de passage. Même s'il y a des policiers en civil qui veulent aller là-bas, ils peuvent très bien aller là-bas sans se faire repérer. Hein. C'est pas... Voilà, c'est tout. Bon. Alors là, elle dit même, ils se sont arrangés pour avoir dans le village de Tarnac des relations amicales avec les gens qui pouvaient les prévenir de la présence d'étrangers. Ben, c'est pas du tout ça. On n'est pas là en train de regarder s'il y a des étrangers qui viennent. Il y a tout le temps des gens extérieurs qui viennent. Bon, c'est pas un endroit secret ici. Hein.
Pour les gens de droite, après l'ultra-gauche, c'est le précipice. C'est la révolution.
Tarnac en Corrèze, dans une communauté qualifiée d'ultra-gauche ou d'anarcho-autonome par la police.
Et tout de suite, une enquête qui est allée très vite.
Les investigations sur ce groupe ont été conduites par la sous-direction antiterroriste.
Il s'agissait donc bien d'actes de terrorisme.
Putain, on apprend qu'il y a une action terroriste à Tarnac. À Tarnac. Alors là, ça devenait rigolade. Hein? Moi, c'était pourtant sérieux. Nous voilà au centre du gouvernement futur communiste et socialiste, ou je sais pas quoi, de France. Ultra-gauche. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Hein, franchement, qu'est-ce que ça veut dire ultra-gauche? Il y a l'ultra-droite aussi, hein. On pourrait s'en occuper aussi pendant qu'on y est. Ça ferait une pierre deux coups. Vous savez, j'étais résistant. J'ai vu les villages encerclés, comme ils ont encerclé le village ici l'autre jour. Ils ont encerclé le village, vous vous rendez compte? Ils ont bouché les routes, croyant qu'ils allaient courir dans les bois, peut-être, puis s'envoler. Non, mais... je rigole, mais c'est triste. Hein. Et on ne peut pas les enfermer à cause de leurs idées subversives. Ça, c'est impossible, en France. Si moi je dis merde à M. Sarkozy, on va m'enfermer? C'est pas possible quand même. J'ai bien le droit de dire, de donner mon opinion, non? Moi je crois que c'est une opinion. C'est démarré comme ça, certainement. Hein. Il faut quand même se battre pour les idées qu'on a, c'est certain.
Voilà, c'est un mouvement qui est en marche. L'association de malfaiteurs peut s'appliquer à n'importe quelle grève. Après, on ne va pas jusqu'à
Michel et Thierry.
Maintenant, avec leur législation, ils vont n'importe quelle grève va devenir terroriste, etc., etc. Mais dans le contexte actuel de crise, de récession d'abord financière et maintenant économique, dans ce contexte-là, c'est un signal qui est très clair. C'est-à-dire, on sait dans ce cadre-là qu'il va y avoir une contestation, on sait qu'il va y avoir une montée en puissance d'une certaine forme de révolte. D'ailleurs, ils le savent d'autant bien. D'autant mieux que même certains économistes, par exemple, je crois que c'est le Crédit Suisse ou l'UBS, ont envoyé des lettres à leurs actionnaires en disant « Ouais, ouais, on va mettre toutes nos actions sur les prisons parce qu'on sait qu'elles vont se remplir. » Le gouvernement sait ça, donc il sait qu'il va être face à une situation de contestation qui va toujours être grandissante. Et donc, par rapport à ça, il essaie de réagir à la racine en lançant un signal extrêmement violent en disant « Toute forme de contestation, aujourd'hui, peut être criminalisée. » Ça ne veut pas dire qu'on va tout criminaliser et que chaque personne qui va se mettre à manifester ou à faire une grève va être enfermée avec des chefs d'inculpation terroriste. C'est pas du tout ça que c'est pas ça qui est dit. C'est en train d'être dit, genre, ça peut arriver. Si ça va trop loin, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, c'est en train d'arriver, de fait.
Voilà, merci à tous. C'est un reportage de Pascal Le Pascariello. Merci à Michel Gilabert, Thierry Le Tellier, Yann, Loïc, Gérard, Frédéric, Laetitia et François. Merci aux habitants de Tarnac, à l'épicerie café de Tarnac. Merci à Télé 1000 Vaches et à la bande magnétique. Plusieurs manifestations sont prévues partout en France en décembre et janvier. Pour plus d'informations, le site du comité de soutien www.soutien11novembre.org. Et des livres, Changement de propriétaire, la guerre civile continue, d'Éric Azan aux éditions du Seuil, et L'insurrection qui
qui vient, aux éditions de La Fabrique également. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincaise et Julien Chabassu, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Agnès Le Bot. Attends vos messages au répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.